Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À chacune des 10 émissions de la série qu'il consacrait à Salvador Dali, après l'ouverture de son théâtre-musée de Figueras en 1974, Daniel Lecomte avait donné comme titre celui d'une œuvre de Dali, Chair de poule inaugurale, éléments énigmatiques dans un paysage, persistance de la mémoire, l'œil du temps pour les 4 premières et les plaisirs illuminés pour la 5e que nous allons entendre. Y intervenaient Haakon Chevalier et Stéphane Lupasco. Haakon Chevalier, professeur à Berkeley et ami de Robert Oppenheimer, qui avait traduit en anglais « La vie secrète de Salvador Dali » et son roman « Visage caché » quand Dali était aux USA durant la guerre. Stéphane Lupasco, philosophe, auteur notamment de l'expérience microphysique et la pensée humaine, qui témoignait de la capacité de l'artiste Dali à comprendre des théories et des découvertes scientifiques qui rejoignaient ses propres intuitions. Une émission dans laquelle les textes extraits des livres de Dali étaient lus par Jacques Dufilot et Jean Péméja. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, 5e des 10 épisodes, Les plaisirs illuminés. Première diffusion le 10 novembre 1978 sur France Culture.
Salvador Dali, clé pour un théâtre-musée, Les plaisirs illuminés, par Daniel Lecomte.
Au théâtre de Figueras, brûlé pendant la guerre, Salvador Dali a installé sur l'emplacement du parterre une cour carrelée, corne des massifs géométriques de Fusain, disposée autour d'une cadillac. Pour 5 pesetas, les spectateurs peuvent déclencher une série de jets d'eau qui arrosent l'intérieur de la voiture où un mannequin d'homme, a priori imputrescible, est assis au volant. La banquette arrière est occupée par un mannequin de femme dont le visage est caché sous une voilette. La plupart des visiteurs ne savent pas qu'il s'agit pour Dali du rappel d'une de ses œuvres créées en 1938, Le taxi pluvieux.
À l'époque, il y en avait 6. Un, le président Roosevelt, l'autre Al Capone, l'autre Carl Kaibel, l'autre Dali, les autres, je ne sais pas qui, mais il y en avait 6 de cette même édition. Et les personnages ne sont pas imputrescibles, tous ils pourrissent parfaitement bien, de façon qu'on songe à les changer chaque 3 ou 4 mois. Et c'est arrivé déjà à l'exposition première où j'exposais mon taxi pluvieux chez Wildenstein, à Paris, où vraiment ça puait tellement entre les escargots qui moulaient et les putréfactions
naturelles du mannequin,
vraiment c'était impossible à soutenir, il fallait tout renouveler.
Ce que Salvador Dali ne nous dit pas, c'est que durant la dernière guerre mondiale, cette voiture lui servit à faire des allers-retours entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Or, quand on sait qu'il a la phobie de tout voyage, qu'il se fasse en avion, en paquebot, en chemin de fer ou même en automobile, on comprend qu'il lui fallait des raisons bien impérieuses pour se servir ainsi d'une Cadillac. Lorsqu'en 1941, il s'était enfui d'Europe, il avait trouvé refuge en Virginie, à Hampton Manor, chez Carus Grosby, la nièce par alliance de Pierre Portmorgan, le célèbre banquier. Avant-guerre, elle et son mari avaient fait partie de la colonie américaine venue s'établir en France, à l'exemple de Scott Fitzgerald, Hemingway, Dos Passos, Man Ray, Henry Miller. Ce dernier avait été lui aussi invité à Hampton Manor pour finir d'écrire Tropique du Capricorne. Or, l'hôtesse ayant dû s'absenter quelque temps, trouva à son retour l'écrivain en train de peindre et Dali en train d'écrire sa vie secrète. Carus Grosby envisagea aussitôt de lui trouver un éditeur américain. Mais comme Dali rédigeait en français, il fallait d'abord trouver un traducteur américain. Ce n'était pas chose aisée. Le travail demandait de la compétence, de la rigueur et une certaine souplesse de caractère. Elle prit contact avec Haakon Chevalier, professeur de littérature française à l'université de Berkeley. Dali commença par lui écrire, puis décida d'aller jusqu'à San Francisco et donna rendez-vous à Akon Chevalier, à l'hôtel Del Monte.
Pour moi, c'était quelque chose d'assez horrible. Et sa peinture me paraissait décadente et je n'avais pas grande envie de travailler à son livre avant de l'avoir lu, bien entendu. Mais quand je l'ai vu, j'ai été charmé par l'homme. Il était d'une gentillesse exquise, très modeste. Naturellement, il avait beaucoup de bravura, comme on dit en espagnol. Il parlait très souvent de lui à la troisième personne. Dali fait ceci, Dali n'aime pas ça. Et là, on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines. C'était l'été de 41, je crois. On s'est entendu à merveille. Et ça a été le début, en 42, n'est-ce pas, d'une longue amitié qui a duré plus de 30 ans.
Et alors, le travail se passait comment? Le texte était déjà tout écrit et...
Il y avait le problème d'abord... de vérifier le texte, parce que l'écriture de Dali est tellement extraordinaire et parfois illisible que, et puis son écriture, par la forme même des lettres, il y a un aspect délirant dans sa prose également, n'est-ce pas, parce que d'abord l'orthographe et puis la syntaxe. Il a un vocabulaire très riche.
Et puis des mots qui sont des trouvailles.
Et des trouvailles, oui.
Extrait de La vie secrète.
La beauté et l'excellence du paysage de Cadaqués tiennent à sa structure. Chaque colline, chaque roche semble dessinée par Leonardo lui-même. En dehors de cette structure, il n'y a rien, à peine de végétation. Seuls deux petits oliviers couronnent de leurs cheveux d'argent les fronts pensifs des collines, ridés par les sentiers à demi effacés. Les murs de soutènement des anciennes vignes, semblables à des lignes géodésiques, dessinent des gradins irréguliers par lesquels toute la montagne semble majestueusement descendre jusqu'à la mer. Souriant, taciturne, exalté de sentiments dionysiaques dans les semaines nostalgiques, raphaéliques ou paladiens, ces gradins viennent fleurir au bord de l'eau.
Ce qui m'a surtout impressionné, c'est que dès le début, je me suis rendu compte que c'était un travailleur fantastique. Parfois, il y avait un mot sur lequel il insistait. Il fallait que ce soit comme ça. Par exemple, il avait une phrase vers la fin du livre, « Septembre, septembré ». Ça ne se dit pas en français ni en anglais, mais il fallait que ce soit comme ça, et ça, c'était très poétique, en fin de compte.
Regarde, Salvador Dali vient de naître. Le vent a cessé de souffler, et le ciel est pur. La Méditerranée est calme, et sur son dos lisse de poissons, on peut voir briller comme des écailles les 7 reflets du soleil. Ils sont bien comptés, et tant mieux, car Salvador Dali n'en voudrait pas plus. C'est par un matin semblable que les Grecs et les Phéniciens ont débarqué dans les golfes de Rosas et d'Ampurias pour y préparer le lit de la civilisation et les draps propres et théâtraux de ma naissance, s'installant au centre de cette plaine de l'Ampourdam, qui est le paysage le plus concret et le plus objectif du monde.
Après un travail intensif de plusieurs semaines, la traduction anglaise de La vie secrète fut enfin prête. Le livre sortit et remporta un grand succès d'estime.
C'était très important pour moi parce que ça m'a ouvert tout un monde, n'est-ce pas, qui m'était jusqu'alors inconnu. Et puis, du point de vue littéraire, c'est un document du plus grand intérêt. Plus tard, quelqu'un a eu l'idée de publier ce livre en français. On a cherché le manuscrit, il était perdu. Il n'y avait plus de texte français. Et on a dû se baser sur ma traduction pour retraduire le livre en français.
C'est Michel Déon, je crois qu'il s'en est.
Michel Déon a été le traducteur. Et la même chose s'est produite pour Les visages cachés, son roman. Là aussi, l'original avait été perdu.
Et pourquoi les manuscrits se sont perdus comme ça?
Ça, je ne sais pas. En principe, c'est Gala qui était responsable de toutes ses possessions, n'est-ce pas, tout ce qu'il faisait sur toutes ses propres productions.
Et on ne peut pas imaginer qu'ils sont déposés en un lieu très sûr.
C'est possible, c'est possible.
Mais qu'on ne veut pas les en retirer.
Oui, c'est possible.
Donc, votre deuxième collaboration concerne Visage caché, le seul roman qu'a écrit Salvador Dali. En quelle année ça s'est passé?
Ça, c'était en 1943.
En pleine guerre.
En pleine guerre, oui. J'étais à New York et Dali aussi. Et il m'a proposé la traduction de ce livre. Alors, il est allé se cacher, pour ainsi dire, dans le New Hampshire, à Franconia. C'est une petite, toute petite ville dans les White Mountains. La propriété du marquis de Cuevas se trouve là, et le marquis avait invité Dali et Gala à s'y rendre. Alors, ça c'est passé très amicalement. Lui avait déjà commencé le livre, il a continué à travailler pendant tout ce temps, et moi je me suis mis à traduire.
Et ça s'est bien passé, pas de scène de rage?
Non, jamais de scène de rage. Dali aime les échecs, alors je me demandais comment il allait jouer, parce que moi, sans être un joueur très fort, j'ai beaucoup joué et j'ai étudié le jeu assez profondément. Alors ce qui m'a étonné, c'est qu'il faisait des jeux qui m'époustouflaient parce que ça ne rimait à rien. Je lui ai dit, mais non, ça, ce n'est pas bien. Il disait toujours, c'est ce que je veux jouer. Il perdait toujours. Il perdait, on jouait jusqu'à la fin, jusqu'au mat, échec et mat. Il ne voulait pas abandonner. Il voulait que ça se termine. Et chaque fois il perdait, j'essayais de ne pas trop bien jouer, mais rien n'allait. Il perdait sa reine, il perdait ses fous, et ça terminait toujours comme ça. Il a dit, c'est exactement comme ça que je veux jouer. Ça ne l'embêtait pas de perdre, il n'était pas en mauvaise humeur.
Extrait de Visage caché.
Grandsaille s'immobilisa un instant. Solange, accrochée à la rampe d'ébène, espérant l'impossible, pouvait à peine se tenir debout. « Prenez bien soin de vous », fut tout ce qu'elle dit. Lorsque Grandsaille fut parti, Solange resta un long moment dans la même attitude, les yeux fixés sur le mur en simili-marbre vert au-dessus du dernier virage de l'escalier. Le visage de Solange de Cléda semblait être rasséréné, mais qui aurait eu alors la curiosité de s'approcher et de regarder entre les paupières mi-closes, aurait probablement été terrifié de découvrir que ce regard ne voyait point, qu'entre les fentes des cils n'apparaissait au lieu de pupilles que le blanc des yeux. Et c'est dans le blanc de ses yeux, lisses comme ceux des statues aveugles, que l'imagination de Salvador Dali veut graver, donc immortaliser, le mot latin « nihil », qui signifie rien.
Comment ça vous a paru être ce roman? Parce qu'il est, disons, complètement anachronique. Il ne ressemble en rien à ce qu'on pouvait écrire à l'époque aux États-Unis.
Non.
Hein, aucun point commun.
Je ne sais pas s'il a eu du succès aux États-Unis, mais qu'il n'a pas dû plaire à la plupart des gens. Ça a eu une très mauvaise critique. On avait tenté de faire présenter le roman par le grand magazine Life, qui en principe s'y serait intéressé. Mais quand ils l'ont lu, ils l'ont rejeté, ils ont employé le mot fruity, fruiteux.
Pourtant, pour appâter le lecteur, Dali avait gravé un frontispice représentant le moment où, à la fin du roman, l'héroïne, Solange de Cléda, se transforme en arbre.
Et il a trouvé un modèle qu'il faisait venir dans son appartement à dans l'hôtel Saint Regis. Et il fallait qu'elle soit épilée. Et pendant 4 ou 5 après-midi, j'étais là avec lui pour le voir, où je le voyais dessiner ce portrait. C'était une chose magnifique, bien entendu, mais qui a créé certains problèmes parce que, d'après les lois de ce moment-là, on ne pouvait pas montrer une femme nue. On ne pouvait pas montrer le sexe. Et plus précisément, on ne pouvait pas montrer le poil du pubis. Dali était au courant de cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a demandé à son modèle de s'épiler avant de poser. Il pensait que, comme ça, tout irait bien. Mais non, il a fallu qu'il mette une feuille de ce chêne-liège. Cet arbre est un chêne-liège. Moi, j'ai ici l'original de ce dessin. C'est une gravure.
Malgré l'échec de son livre, Dali ne renonça pas à écrire et il demanda en 1948 à Cohn-Chevalier de traduire son troisième ouvrage, Les 50 secrets magiques, où il parle de son métier de peintre.
Il y a une seule chose dont tout le monde est d'accord en parlant de Dali, c'est l'admiration pour son artisanat, sa technique, sa connaissance de la peinture et l'art de peindre, de dessiner. Alors son dernier secret, comme vous le savez, c'est que, à part toutes ces choses, ces autres 49 choses qu'il faut faire pour être un bon peintre, il est absolument essentiel, il adresse le livre au jeune peintre, n'est-ce pas ? Il faut que votre main soit guidée par la main d'un ange. Et puis ailleurs, il dit, la seule chose qui est importante pour être un bon peintre, c'est de s'appeler Salvador Dali.
Il écrit encore...
Commence par apprendre à dessiner et à peindre comme les anciens maîtres. Tu pourras ensuite faire comme tu voudras. Chacun te respectera.
Est-il vrai que vous dessinez abondamment encore?
Tous les jours, ça, tous les jours. Mais ça, c'est toujours un prétexte érotique pour voir des culs et des seins, tout ça. Que d'ailleurs, ils ne me font aucun effet érotique. Déjà, mon âge et sans prostate et tout ça, mais cérébralement, je trouve que c'est une merveille quand un corps est parfait. Maintenant, je cherche des corps beaux, d'éphèbes, de garçons, parce qu'évidemment, le corps de l'homme est beaucoup plus beau que le corps des femmes. Vous voyez, dans les statues grecques, les hommes sont toujours nus complètement et les femmes ont l'air de mettre la main en crachant un peu les seins. On peut le sexe voulant dire, je m'excuse, d'avoir tous ces appendices qui sont purement destinés animalement à la procréation.
Bien qu'en 1941, Dali ait débarqué sur le sol américain en déclarant « Le surréalisme, c'est moi », il avait très rapidement cessé de peindre surréalistement. Hakon Chevalier a assisté à l'élaboration d'une toile fameuse.
Il y a à prendre et à laisser, n'est-ce pas ? Je l'ai vu peindre, par exemple, à Del Monte, je l'ai vu peindre ce grand tableau, Leda Atomica. Il avait acheté le signe était énorme, qui était accroché, qui planait sur cette plateforme. Tout était là comme il le peint, n'est-ce pas? Parce que quand il peint quelque chose, il doit avoir la chose devant lui. Alors là, j'ai pu voir la façon dont il travaille, n'est-ce pas? Il a des longs pinceaux, et il tient le bout du pinceau tout près de sa tête, et puis il a un bâton sur lequel il appuie la main avec laquelle il peint. Et c'est tout fait en très petites touches. Naturellement, il met des mois à faire un tableau comme ça. C'est un travail très exigeant.
Donc en réalité, là, vous avez été frappé par la technique.
Oui.
De Dali.
Oui.
Bon, mais quant à son inspiration?
Eh bien là, pourquoi Leda atomique? Eh bien, l'explosion atomique, naturellement, sépare tout ce qui constituent un ensemble dans la vie réelle, n'est-ce pas? Par exemple, il y a la mer, mais la mer ne touche pas la plage. Il y a un espace entre la surface de la mer et la plage, et on voit l'ombre de la mer sur le sable. C'est une de ces façons de voir la question atomique, n'est-ce pas, la révolution nucléaire. Alors ça, c'est un effort pour se mettre à la page de ce qui est la recherche la plus récente.
Or, à la même époque, Haakon Chevalier était l'ami d'Oppenheimer. Ils furent d'ailleurs plus tard tous les deux poursuivis au nom du McCarthyisme. Daly lui demanda à rencontrer Oppenheimer.
Et j'ai réussi une fois à les réunir à un dîner que nous avons offert, mais ça n'a pas du tout marché entre les deux. Oppenheimer était revêche au tempérament de Daly.
Et quel était le comportement de Daly ?
Daly n'était pas lui-même, c'est-à-dire normalement, quand il y a un groupe comme ça, il commence à parler, puis les idées commencent à scintiller. Il développe quelque chose de tout à fait absurde parfois, n'est-ce pas, mais qu'il était par toutes sortes d'arguments qui lui viennent de droite et de gauche. Mais à ce moment-là, c'est Oppenheimer qui a parlé sur un tas de questions qui étaient d'un intérêt général, en évitant bien entendu les questions politiques, car il savait que Daly était plus ou moins à droite, tandis que lui était de gauche.
Ce fiasco d'une rencontre avec un scientifique est rare chez Daly. Sa curiosité en ce domaine est certaine. Ainsi, un jour, après avoir lu « L'expérience microphysique et la pensée humaine », d'accès peu facile, il chercha à rencontrer son auteur, le professeur Stéphane Loupascu.
Et j'ai été tout à fait étonné de voir un homme qui connaissait à fond mon livre. Mon livre est assez technique, d'une part, c'est toute la genèse de la microphysique, et surtout, c'est un livre où je mets à l'évidence, d'une part, les contradictions fondamentales que découvre l'expérience microphysique, et d'autre part, l'entendement humain. C'est pour ça que mon livre s'intitule « L'expérience microphysique et la pensée humaine ». D'une part, nous avons une pensée humaine qui est encore prisonnière de la logique classique, de non-contradictions rigoureuses qui commandent les mathématiques classiques et les mathématiques qu'on applique à la physique. Or, la microphysique, précisément, met en évidence des dualités antagonistes et contradictoires fondamentales. Alors, Daly avait très bien compris, parce qu'il y a toute la genèse de la microphysique depuis Planck jusqu'à nos jours, puisqu'il m'a posé des questions très pertinentes, non pas en l'air, des petites choses comme ça en l'air, et il s'intéressait énormément. Alors, à partir de ce moment-là, ma vision de Daly a complètement changé. J'ai constaté que, parti du surréalisme, qui voit les choses au-dessus de la réalité, comme au fond la plupart, ou même peut-être la totalité de la pensée humaine, qui a toujours considéré que les révélations arrivaient d'en haut, par de la nature, eh bien, la science contemporaine, c'est-à-dire l'expérience, j'insiste beaucoup sur le mot, l'expérience scientifique contemporaine montre qu'au contraire, tout arrive de l'intérieur des choses, non pas de la matière, qui est réduite à l'énergie, comme vous le savez, depuis les équations fondamentales d'Einstein, mais de la nature même, de l'intérieur de l'énergie. Dans mon livre, que Daly avait apprécié, c'est précisément cette nécessité de l'entendement humain de se modifier, de créer un nouvel entendement à base de, précisément, contradictions dynamiques.
Et, en fait, pour vous, à travers ces questions, vous avez compris que c'était un homme qui, scientifiquement...
Était compétent, même très compétent, et obsédé, justement, à ce moment-là, il a compris une chose capitale, c'est que maintenant, il faut, au contraire, il faudrait quitter le surréalisme et, au fond, créer un sous-réalisme. Et il a compris tellement à fond qu'il s'est mis, à descendre lui-même dans les particules. Et alors, il est obsédé par les particules. Il me pose des questions sur les particules, sur les neutrinos. N'est-ce pas ? C'est très compliqué. Ça l'intéresse lui particulièrement parce que c'est une particule extrêmement petite. Alors, n'est-ce pas, c'est, pour ainsi dire, pour l'artiste aérienne, ça, elle n'a pas de masse, elle n'a pas de charge électrique, elle est neutre, c'est un petit neutron.
Il voit l'image de Dieu.
Il voit l'image de Dieu. dit que si Dieu existe, eh bien, Dieu est à l'intérieur de l'énergie et non pas à l'extérieur. Il n'est pas transcendant, mais immanent. S'il y a un Dieu, il est immanent. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, tous les phénomènes, toutes les transformations proviennent de l'intérieur.
Un autre point a retenu l'intérêt de Salvador Dali. La régénérescence de la matière qu'on observe en microphysique.
En microphysique est intervenu un principe fondamental qui est le principe de Pauli. Je l'explique. Les électrons, les protons, les neutrons, certaines particules ont cette propriété extraordinaire de s'exclure de leur état quantique dans un gaz, dans un atome, dans une molécule. Autrement dit, en s'excluant, chaque électron, et dans cette pièce vous avez des milliards et des milliards d'électrons, chaque électron est un électron qui s'individualise, qui s'hétérogénéise par ce principe d'exclusion. C'est un principe qui est à la base, à mon avis, de la vie, et beaucoup de biologistes ne le voient pas aujourd'hui encore, que cette hétérogénéité biologique, chacune de vos cellules, chacune de vos organes, sont absolument différents de vous à moi. Il y a une hétérogénéité considérable, hétérogénéité qui n'est possible que précisément dans la lutte que la matière vivante mène contre le deuxième principe.
Ce deuxième principe de la thermodynamique, découvert au XIXe siècle par Clausius, est celui de la dégradation inexorable de l'énergie physique. Alors qu'initialement, elle possède une hétérogénéité d'état, électrique, chimique, cinétique, elle se transforme irréversiblement en chaleur et elle deviendrait progressivement homogène si un cycle de constitution de la matière ne recommençait. Il y a donc un principe de non-contradiction, celui de l'énergie physique dans lequel nous vivons et qui permet par exemple aux ingénieurs de construire un pont sans qu'il s'écroule. Il y a une deuxième logique, celle de l'hétérogénéité qui concerne la biologie.
Et puis il y a une logique du psychique, que je mets en évidence dans mes travaux, une logique qui est faite de la coexistence de l'homogène et l'hétérogène dans une sorte de semi-actualisation et semi-potentialisation, et qui est précisément l'essence du psychisme. Et c'est ça qui attire Dali. Il l'a compris instinctivement, comme un artiste le comprend. Souvent, ces tableaux montrent une réalité assez pompieresque. Et tout à coup, on voit que ça s'écroule, qu'il est usé. Je me souviens, cet homme qui est parfait, admirable, sur une plage, tout est parfait, c'est un véritable chromo, il a fait ce qu'il veut, parce qu'il fait ce qu'il veut. Et tout à coup, on voit une jambe qui se désintègre complètement. On voit très bien là l'œuvre de l'antagonisme contradictoire.
J'ai un grand avantage sur les scientifiques, inclus M. Lupesco, que je respecte et j'admire beaucoup, c'est que les scientifiques sont tous terriblement spécialisés. C'est-à-dire un biologue ne connaît pas la physique microphysique, celui qui connaît la microphysique ne connaît pas l'ADN, c'est-à-dire tous ils sont spécialisés dans quelque chose. Et moi j'ai la grande chance de ne connaître rien à la science. Mais je n'aime lire les choses que je ne comprends pas. Alors, j'adore lire les choses scientifiques parce que je me forme des idées, n'étant pas spécialiste, qu'après quand je les dis aux scientifiques, ils disent « Mais tiens, Dali n'est pas aussi bête qu'on avait écrit. » Et j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter Freud, pas beaucoup, mais de connaître Freud, de connaître Watson, qui a trouvé la liste de la vie, enfin, l'acide désoxyribonucléique, Denis Gabor qui a trouvé l'holographie, alors j'ai eu une chance extraordinaire de parler avec eux et ça m'intéresse beaucoup plus de parler avec un homme de science qu'avec un artiste et surtout avec un peintre parce que la plupart des peintres ont été toujours des ânes, des gens qui ne savaient rien.
Mais est-ce que vous vous excluez à ce moment-là?
Ah, moi je connais beaucoup plus que la plupart des artistes, il n'y a pas de doute. Tout en ne connaissant rien.
C'est-à-dire qu'il a une grande foi dans son intuition. Et les poètes de tout temps ont mis l'accent sur la contradiction, avant que j'arrive avec ma logique du contradictoire. Les poètes, les artistes, ont, justement parce qu'ils sont essentiellement psychiques, ont ce que j'appelle, moi, dans mes travaux, la conscience de la conscience, la connaissance de la conscience, instinctive. On voit en biologie, par exemple, que tout est à base d'antagonisme, hormonal, enzymatique, etc., etc. Rien ne se fait sans antagonisme. Et pourtant, la notion d'antagonisme n'a pas un droit de cité dans une théorie biologique.
C'est ça. Et alors, au fond, votre impression, c'est qu'il a compris ça et il a trouvé là la justification de ses intuitions.
Il a trouvé là la justification de ses intuitions. Et il en est très heureux. Enfin, il est très, très content de voir que ses intuitions ont été, au fond, développées,
confirmées
par l'expérience et l'expérimentation scientifique. Il a compris que maintenant, les choses se passent sous la réalité et non pas sur la réalité.
Clé pour un théâtre-musée, Les plaisirs illuminés, Salvador Dali, par Daniel Lecomte et Jacqueline Archambault.
C'était le 5e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée. Première diffusion le 10 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture. À suivre.